Bonjour et bienvenue à Regard Creusé avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour.
Oui, nous sommes en plein milieu de semaine, c'est le mercredi 18 novembre. Arlette, comment vas-tu?
Je vais bien, merci Fulgence, et toi?
Oui, je vais bien. Est-ce qu'on a deux invités aujourd'hui?
Eh bien, oui.
Oui.
On en a deux pendant la première demi-heure.
Oui. Le directeur général, Éric Lefebvre, directeur général du partenariat du quartier des spectacles.
Cool.
Qui va venir nous parler de ce lieu que tout le monde connaît.
Et en deuxième partie d'émission, ben on sera avec Denis Martin Chabot qui a fait une entrevue avec Adi Damien qui est coprésident d'Interpride qui regroupe toutes les fiertés du monde. Donc on va voir ça avec lui, on va l'écouter puis on va en discuter. On parlera du défi des fiertés en 2021 et puis de l'après-Covid et des gouvernements contre les guerres. Enfin, nous allons discuter de tout ça dans la deuxième demi-heure de notre
émission. Et avant d'arriver là, de toutes les façons, avant de recevoir Éric Lefebvre, il aura un petit sujet de sport de Formule 1 qui s'est passé le dimanche en Turquie.
Okay.
Voilà, avant qu'on ait Éric à 17h15, on part musique.
Allez.
Voilà, avec quelqu'un, deux sœurs jumelles. Avec la complicité d'un DJ, DJ Tyra, Queen Twins, en bas.
Alors,
avant que la machine ne démarre là-bas, je vais tout de suite commencer avec Formule 1 de Turquie, tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche en Turquie? Dimanche 15 novembre. Lewis Hamilton... au volant de sa Mercedes. Sixième position, tu t'imagines. Sixième position, il gagne la course. Septième titre de champion du monde. 94e victoire.
Bravo.
Arlette, je ne sais pas pourquoi ce garçon, tu as dit, j'ai revenu là-dessus, qui a signé son premier contrat à l'âge de 13 ans avec Mercedes.
13 ans, mais il ne savait pas conduire.
Il faisait l'écart. Ici, il savait conduire. Oui. Il n'a pas eu le permis de conduire pour les trucs, là, les petites voitures de course et autres. Là, voilà, ça ne marchait pas de problème pour ça. Voilà, Maurice nous fait signe que la musique peut aller maintenant. Et on va l'écouter.
Alors,
ensuite,
on l'écoute et on en reparle tout de suite après.
On en reparle tout de suite après.
To so quality. so que sinto na Ibiza.
Twins featuring DJ Tyra Hamba, ça des sœurs jumelles avec la complicité de ce DJ, DJ Tyra. Voilà. Là maintenant on vient.
On repart en voiture.
On repart en voiture. Ouais. Il n'avait pas de permis de conduire à 13 ans. Ça n'a rien à voir avec nos voitures qu'on conduit ici en ville. Voilà, oui. C'est un milieu très spécial. Les enfants, ils commencent. Ceux qui commencent tôt, par exemple, comme ça, dans les petites voitures, les comment on appelle
les cartes.
Les cartes, moi.
J'en ai fait. Je sais ce que c'est.
Lui, ouais. Il a commencé à 8 ans. Oui. Et s'ils sont contents avec ma Mercedes McLaren à l'époque, à 13 ans déjà.
Bon,
voilà. Donc, ça faisait son 7e titre mondial. 94e podium. C'est illégal en matière de titre de champion. Illégal maintenant, Michael Schumacher, l'Allemand, qui était jusqu'à présent le seul qui a eu 7 trophées comme ça. Alors, ce garçon, moi, il m'épate parce que il n'est pas parti en pole position. En pole position, c'était, quand je regarde la liste ici, c'était Lance Stroll qui était en pole position. Il a terminé 9e. Problème de pluie, problème de pneus. Alors, quand tu pars de la 6e position que tu vas gagner la course, dans les mêmes conditions, je dis bravo.
Mais oui, c'est ce qu'on lui dit, bravo.
Oui. Je dis, j'étais en train de penser à ça la dernière fois après avoir vu ça d'ailleurs. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va vouloir mettre encore un 8e titre, un autre titre de champion du monde et puis dire, ça suffit, je vais me consacrer à la musique parce qu'il fait de la musique aussi. Voilà.
Je crois qu'on peut commuer les deux. Il y a plein de d'artistes, de musiciens qui font aussi des sportifs ou l'inverse de sportifs qui sont devenus musiciens.
Oui, mais en musique, il y a moins de risques parce que ce qu'il fait comme sport, là, c'est pas... Il y a d'autres qui sont partis sur la piste, ils ne sont jamais revenus. Voilà.
Il y en a qui ont duré aussi, donc...
Voilà, il y a d'autres qui ont duré.
Regardons le côté du verre à moitié plein.
Voilà. Moi, je le... Arlette. Alors, il avait eu son premier titre en 2008 avec McLaren, bien sûr. 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec Mercedes. Alors, on se dit, voilà, qui peut faire mieux? On ne peut pas... À son âge, oui... Voilà, quand tu as un papa qui avait 4 boulots pour te supporter, 4 emplois, ben tu te dis, et parce que tous les autres, hein, c'est tous des fils à papa, hein, c'est ce qu'on dit dans... pour faire ce sport-là.
Ça n'enlève rien la valeur de l'individu et de sa façon de rouler.
C'est ça. Je l'ai vu, j'ai vu sa photo, la vidéo, la photo, comment il était ému.
Et c'est sûr, il a tout misé sur son fils, c'est
oui,
bien.
Oui, ça c'est vraiment son... Voilà, alors, je lui dis bravo. Je ne sais pas, les deux prochaines courses auront lieu là-bas dans les pays du Golfe.
D'accord.
Il reste encore, je pense, bien 3 courses à faire. Et puis, bon, ben, l'année est terminée pour eux, quoi. Ils vont prendre les vacances et puis revenir. Je ne sais pas, il y a un journaliste qui lui a demandé est-ce qu'il va continuer encore pour un 8e titre mondial. Il s'est dit, oh, je ne sais pas, bon, la musique m'attire de plus en plus. Et il a eu un message très puissant à l'égard des jeunes gens de familles modestes qui s'intéressent à ce sport ou bien qui aimeraient s'intéresser à ce sport. Je pense bien que s'il arrête demain, ce serait sa lutte pour essayer de les aider. Comment parvenir à se retrouver un jour en F1 ? Parce qu'il faut partir de loin. F3, F4, F4, F3, F2, F1.
Il partira avec les honneurs ?
Ah oui. Quand il avait commencé à 8 ans déjà, il battait les gens de 15 ans. Ouais, c'est comme ça que son père a dit, ah, ce garçon, faut pas le laisser tomber, il me faut un deuxième boulot. Après, il a vu que ça y dépensait trop, il me faut un troisième boulot. Après, il a vu que ça coûtait trop d'argent, il me faut un quatrième boulot. C'est comme ça qu'il s'est accumulé quatre boulots pour pousser son petit garçon qui est devenu, et ils s'entendent très bien maintenant depuis qu'il n'est plus, le manager de son fils. Quand il était manager, ça se cognait, hein. Papa, en même temps manager, c'est pas évident, hein.
Il y en a beaucoup qui ont tenté ce rôle-là. C'est pas évident de le réussir. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Bah moi, est-ce que tu te vois, toi, en train de manager de ta fille dans un domaine quelconque?
Je sais pas.
Voilà.
Ça, c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre là aujourd'hui.
Voilà. Arrête.
Pourquoi ça marcherait pas, Pourquoi ça marcherait pas?
Alors, je me suis dit, les gens se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait arrêter Lance Stroll deux fois alors que son cupier, on l'a fait arrêter une fois pour une question de pneus. Ils ont dit que oui, les dés sont pipés d'avance. Je lui dis, ah, les gens te voient toujours, comme tu le dis, le verre à moitié plein. Voilà, pas à moitié vide, mais à moitié vide, voilà. Non, mais ça, c'est, ils n'ont qu'à régler ça entre eux là-bas. Pourquoi est-ce que tu pars en pole position et tu ne gagnes pas? Tu n'es même pas sur le podium. D'accord. Même pas deuxième et tu restes en neuvième position, tu termines la course. De toutes les façons, c'est un jeune aussi, hein. Il a de l'avenir devant lui. Voilà, il a de l'avenir devant lui. Et puis, je pense bien qu'il aura l'occasion de se rattraper, oui. À moins qu'il change d'équipe, d'écurie. Mais son papa est actionnaire dans son écurie à lui, où il est là. Bon, c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent. Pourquoi voilà, tu es un fils à papa, arrête de planifier, travaille pour arriver au même niveau que les autres. C'est un problème d'années d'expérience aussi. Et puis, je pense bien que Lance, il va pas... Il va nous surprendre dans les années à venir, ou bien dans les courses à venir. Je lui souhaite.
Ce sera son choix.
Voilà, je lui souhaite. Voilà. On va écouter une autre pièce musicale encore avant de recevoir notre invité. Ouais, je pense bien qu'on est dans le...
Et qu'est-ce que c'est la pièce musicale?
La pièce musicale, ça va être José avec une complicité encore Afrobeat, Touch My Body.
Allez.
Come on.
On a déjà notre invité au téléphone, Éric Lefebvre, directeur général du partenariat du quartier des spectacles. C'est mon ancien boss de CIBL. Bonjour Éric Lefebvre.
Bonjour Fulgence.
Oui. Bonjour l'ancien boss à Fulgence.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Dans le contexte, là, je me porte très bien.
Oh, dans le contexte de la pandémie, directeur général du partenariat du quartier des spectacles, comment on se sent dans le contexte en tant que directeur de ce grand quartier des spectacles, avec tout ce qu'on vit, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça?
Ben oui, mais c'est sûr que, bon, vous savez, le quartier des spectacles, c'est toute la partie est du centre-ville.
Oui.
Fait que non seulement, c'est un moment difficile pour l'ensemble de la culture, pour les créateurs, les artistes, puis c'est encore plus difficile d'être au centre-ville.
Oui.
Mais non, je pense qu'on réussit à avoir plus d'opportunités dans le contexte quand même. Je pense que derrière cette pandémie-là, dans le secteur culturel, les gens se rassemblent, se mobilisent, acceptent de travailler ensemble comme jamais auparavant. Fait que je garde quand même beaucoup de morale, puis je pense les gens veulent qu'il y ait une reprise, ils veulent contribuer à quelque chose de peut-être un peu différent quand on va repartir.
Oui.
Mais c'est certain que c'est pas nécessairement simple pour tout le monde.
Oui, oui. Et vos partenaires, par exemple, la SDC, comment ils vous approchent depuis que la pandémie a commencé avec les confinements, et puis bon, il n'y a pas de spectacle qui se passe, tout est fermé, tout ça. Quand ils viennent vous voir et qu'ils sont en colère, ou bien ils vous appellent et puis ils disent, bon, monsieur le directeur, on s'assoit ensemble, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, je dirais qu'il y a évidemment une colère, il y a évidemment aussi d'une certaine façon dont les gens ne savent pas aussi. Tu sais, ce qui est la difficulté, c'est de pas avoir de vision à moyen et long terme. Hein.
Oui.
On sait jamais là, quand est-ce qu'elle va finir, quand est-ce qu'il va y avoir un vaccin, quand est-ce qu'on va avoir le droit de rouvrir les salles. Je pense que la partie la plus difficile, c'est de pas être capable de se donner un petit peu d'avance, un petit peu de vision, de travailler. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire avec eux. Essayer de donner des différents plans, des différentes structures de travail. Puis
oui.
En disant, bon, peu importe si on est en zone rouge, orange, pour prendre le code couleur du gouvernement, peu importe les situations sanitaires, on va s'assurer d'avoir des plans pour chacun des scénarios.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu notre rôle, ce qu'on fait avec l'ensemble des partenaires pour cet hiver. Donc, pour cet hiver, il y a déjà des projets prévus, même si on est en zone rouge, et évidemment pour le retour des festivals pour l'été prochain.
Oui, on va revenir là-dessus. Pour en parler de luminothérapie et autres, les jardins d'hiver et puis le parcours sur les traces du Père Noël. Ma collègue Arlette,
elle
aimerait vous demander quelque chose.
Je disais aussi que, bon, c'est sûr, il y a le problème de la pandémie, mais en même temps, il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire que ça fait bouger la créativité. Ça fait peut-être inventer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu ça, non?
Oui, moi je dirais, je suis quand même dans un milieu assez créatif. Moi j'ai l'impression que les gens autour de moi sont toujours créatifs. Fait que oui, il y a peut-être des façons différentes de travailler, mais c'est certain que quand ça touche la question des salaires, des rémunérations, mais aussi du sens. Hein. On a eu quand même, les partenaires publics ont toutes sortes de mesures pour appuyer les artistes, les créateurs. Mais quand on peut pas, tu sais, la rencontre avec le public, quand on peut pas faire ce qui nous tient à cœur, pas juste la question du travail puis la rémunération, mais je pense que le plus grand vide est de ce côté-là, d'aller à la rencontre du public, est aller de partager son art, d'être capable de
s'expliquer. Complicité artiste et public.
C'est là
oui,
où on trouve de nouvelles idées.
Ouais. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est cette question-là qui est plus difficile. Le numérique ne remplacera jamais cette question-là.
Oui.
On va peut-être remplacer une petite partie de continuer à exister,
oui.
Mais c'est très loin de répondre à la question de l'âme, à la question du cœur, à quelque chose qui est beaucoup plus profond.
Oui.
C'est vrai.
Oui.
Voilà. C'est vraiment, il faut faire avec.
Il faut faire avec, voilà. Voilà. Comme avant la question de ma collègue, je parlais de luminothérapie, les jardins d'hiver et puis le parcours sur les traces du Père Noël. Alors, ça a déjà commencé de toutes les façons, c'est depuis le 15 novembre, depuis le dimanche passé.
Oui, oui, donc il y a différents plans. Je dirais que c'est commencé depuis le 15 novembre, mais ça va vraiment prendre toute son ampleur autour du 3 décembre, avec l'installation là, de 7 ou 8 œuvres d'installation, comme on le fait un petit peu à chaque année. Oui. Mais cette année, ça va prendre vraiment un volet beaucoup plus important dans l'idée de créer une expérience au centre-ville artistique où que les gens vont pouvoir venir sans créer de rassemblement dans un contexte sanitaire là, qui va respecter l'ensemble des normes, mais qui va être une espèce d'ensemble de parcours que les gens vont pouvoir se promener, qui, avec l'inspiration de la lumière, l'inspiration de l'hiver, d'être capable de faire un parcours agréable pour les gens.
Oui, oui. Mon coup de cœur, c'est la luminothérapie. Et ça va, qui commence le 3 décembre, ça va jusqu'au 14 mars 2021.
On a le temps d'aller se faire allumer.
Oui.
Aussi.
Est-ce que vous êtes beau. Si, par exemple, la pandémie, si on n'a pas, si les soi-disant vaccins qui sont en train de trouver, les vaccins qui tombent maintenant comme des pommes, là, mais depuis quelques jours, telle compagnie a trouvé un vaccin 95-97%. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que ça peut continuer comme ça jusqu'en 2021 si ça reste comme ça dans l'état où on est actuellement? Comment vous, est-ce que vous pensez à ça?
Ben, écoute, je ne suis pas nécessairement l'expert des vaccins, mais on est assez réaliste de dire que l'été prochain, ce ne sera pas un été de retour à la normale.
Oui.
On sait qu'on va poursuivre sur des mesures qui vont peut-être nous permettre dans un monde idéal de faire des rassemblements, peut-être jusqu'à 250 personnes.
Oui.
Et là, à ce moment-là, ce qu'on est en train de travailler, c'est de dire, est-ce qu'on peut multiplier les rassemblements de 250 personnes dans l'ensemble du centre-ville?
Ouais.
C'est un petit peu ce qu'on a tenté de faire à la dernière minute, là, avec quelques semaines d'avis cet été, en proposant des actions un petit peu partout au centre-ville.
Oui.
Et l'idée pour l'été prochain, c'est est-ce qu'on peut multiplier ces différents théâtres un petit peu partout dans la ville, respecter un petit peu le calendrier des festivals. Donc, à ce moment-là, dans les différents théâtres de l'ensemble du centre-ville, durant les dates du jazz, vous pourriez avoir accès du jazz. On n'aurait pas cette notion-là de grande foule, de concentration, mais on pourrait garder l'esprit de ce qui fait une partie de l'identité montréalaise, qui est ces grands événements-là,
cool.
Mais dans un volet beaucoup, beaucoup plus large.
Monsieur le directeur, ne me faites pas rêver. Hein? Ne me faites pas rêver. Là. Ma collègue aussi, là, c'est une dame de spectacle. Elle est cool, c'est chouette.
Vivement.
Oui.
Ben, quand vous parlez de créativité, de se réinventer, et l'idée derrière, ce que moi j'apprécie beaucoup de l'ensemble du secteur culturel, du secteur touristique, c'est de dire OK, il faut travailler ensemble comme on n'a jamais travaillé ensemble. Parce qu'après tout, ces joueurs-là font le même métier, mais c'est aussi des compétiteurs. T'sais, tout le monde achète d'attirer des gens. Mais ce que je ressens de mes collègues, de nos partenaires en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une grande volonté de faire face à ces défis-là collectivement. Et peut-être que ça va nous laisser des legs extrêmement intéressants pour les prochaines années.
Oui, oui.
Pourquoi pas?
On espère, oui. Alors, on va tout doucement vers la fin de notre conversation. Quel est le mot que vous avez à lancer aux Montréalais et aux Québécois qui nous écoutent actuellement? Vous qui êtes à la tête du quartier des spectacles, le quartier des spectacles, celui qui dit qu'il ne connaît pas, là, c'est en plein centre-ville en plus.
C'est pareil.
Oui, écoute, depuis 10 grandes semaines, hein, ça fait très longtemps que j'arrive un petit peu dans cet espace-là.
Oui.
Je le connais bien, j'y travaille déjà depuis 7-8 ans.
Oui.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les gens soient au rendez-vous. Le jour, on sait que c'est pas le bon moment, mais il faut que les gens reviennent, soient au rendez-vous. Il faut aller au-delà des craintes. Il faut appuyer les créateurs, les artistes. On va créer le contexte sanitaire. Il va y avoir les mesures pour justement que ça soit justement sécuritaire, qu'il n'y ait pas de danger.
Oui.
Mais il va falloir que les gens soient au rendez-vous. Si ça prend 2-3 ans avant que les gens reviennent,
Une dernière question avant de vous quitter. Est-ce que la radio ne vous manque pas?
Ben écoute, je pense que oui. Je pense que les médias ont toujours quelque chose d'intéressant à apporter, le sens civique.
Oui.
C'est la responsabilité, le rôle qu'on a à jouer, puis on le voit, hein, que ce soit à travers les élections américaines ou tout ce qu'on voit sur les mouvements des fausses nouvelles. Je trouve que la responsabilité et le rôle des médias comme les vôtres, comme ce qu'on a fait ensemble à CIBL, est encore plus importante pour contribuer à une certaine forme d'éducation populaire. T'sais.
Oui. Merci beaucoup, Éric Lefebvre, directeur général du partenariat des quartiers des spectacles. Merci malgré votre emploi du temps chargé de nous avoir accordé quelques minutes pour nous faire découvrir un peu le travail que vous faites à la tête de cette partie de la ville que tout le monde connaît d'ailleurs. On n'a plus besoin de l'adresse du quartier des spectacles, tout le monde sait c'est où. Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous et puis à une prochaine fois.
Un plaisir, Faisant.
Au revoir.
Au revoir.
Oui. Alors, Arlette.
Oui.
Comme je disais, moi, mon coup de cœur, c'est la luminothérapie. Le mot même simplement me fait rêver. Ça,
c'est toutes les années.
C'est ça, quand j'arrive là, en décembre, en fin d'année comme ça, je passe au centre-ville, là, on dirait un petit garçon qui...
Ça fait du bien.
Qui veut se coudre un manteau avec un arc-en-ciel. Je suis là, les yeux grandement ouverts, je regarde et puis je dis waouh, ça me transporte quelque part.
Tant mieux.
Oui.
Tant mieux.
Et puis il aura aussi les traces du Père Noël, ça commence le 21 novembre, c'est-à-dire bientôt là, et jusqu'au 28 décembre. Ça c'est tout le temps, disons,
mois pour le suivre.
On aura un mois pour le suivre. Et puis il y a quoi encore là? Il y a quelque chose encore que je voulais citer. Les jardins d'hiver. Ça commence le 8 décembre, le 5 décembre jusqu'au 3 janvier 2021. Restez D'accord. à l'écoute. Oui, on vous revient avec la suite de l'émission après la petite pause publicitaire, Arlette.
D'accord, bon ben j'ai...
Vous écoutez Regards croisés.
Alors, on va partir en musique avant de rejoindre Denis Martin Chabot. Donc, on écoute Madeleine Perroux qui nous chante Shout, Sister, Shout.
Shout, Sister, Shout. Darn good reason why a woman starts crying. A reason for a mole, a reason for a dimple. There ain't no reason why a man's so simple.
Shout, sister, shout.
Yeah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Yeah, hallelujah.
Shout, sister, shout.
Yeah.
Tell the whole world what it's all about.
Honey, there's a way to be brilliant and a way to be a fool. A way to get to heaven, observe the golden rule. A way to get a sweetheart and a way to get a wife. And the day you quit me, baby, that's the way you lose your life.
Shout, uh-huh. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Oh, yeah.
Tell the whole world what it's all about.
There's a reason for a mountain and a reason for a reason that a doctor gives a patient a pill. A reason to dance, a reason to sing. Ain't no reason that a band can't swing. Understand my dog, and you understand your cats. And fill me full of rhythm, you understand that.
Shout, oh, yes. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
You know I'm gonna
shout. Shout, sister.
I'm going to shout.
Shout.
Shout it out and tell the world what it's all about.
it's all about.
Bonjour Denis Martin Chabot.
Bonjour Arlette, comment
bonjour,
ça va?
Bonjour Denis Martin.
Bonjour.
Ça va bien? Ça va bien, dis-nous donc.
Oui, ça va bien. Ça va bien, vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'on commence à voir la lumière au bout de notre tunnel qui est comme le COVID.
Oui, eh ben, oui, quand on en sera sûr, on en reparlera. D'accord?
Oui.
Dans l'instant, tu nous as proposé une entrevue très intéressante avec. Comment s'appelle-t-il déjà?
Adi Damien.
Adi Damien.
D'Interpride.
C'est ça.
Oui.
Qui regroupe
les. C'est l'organisme qui regroupe les fiertés du monde. Et lui-même, Adi, est fondateur de Beirut Pride.
C'est ce que j'ai lu.
Ce pays-là, c'est pas évident. Hein.
Surtout que ça date quand même de 2016. Hein. Enfin, on en parlera un petit peu tout à l'heure.
Oui.
On va l'écouter tout de suite. Et puis,
je vais te donner un petit peu le contexte à toi et à Fulgence. Le mouvement des fiertés, là, ça a connu vraiment une année difficile en 2020, avec la COVID-19 évidemment, mais aussi à cause des gouvernements autoritaires de droite qui sont anti-diversité sexuelle et identité de genre. Je pourrais faire la nomenclature, mais on a juste à regarder au sud de la frontière pour avoir le meilleur exemple de ça. Alors, j'ai parlé avec Adi de ces nombreux défis qui attendent le mouvement des fiertés en 2021. Alors, on l'écoute.
Allez, à tout de suite. Reste avec
Bonjour,
nous.
Bonjour, Adi Damien, nouveau co-président d'Interpride, fondateur de la Beirut Pride. C'est quand même beaucoup. Alors, on vous rejoint. Vous êtes à Beirut présentement. Alors, d'abord, parlez-moi un peu de ce que c'est Interpride.
Interpride est une organisation qui rassemble plusieurs organisations qui organisent la fierté, la Pride, dans le monde, ainsi que des réseaux régionaux et nationaux d'organisations comme, par exemple, Fierté Canada Pride, FCP, ou bien EPOA, qui est European Pride Organizers Association. Interpride organise l'Assemblée générale annuelle et est une réunion générale qui a lieu à la moitié de l'année. Nous sommes également les propriétaires de la marque World Pride, la fierté mondiale. Le Canada, d'ailleurs, a accueilli la fierté mondiale à Toronto en 2015. On se souvient toujours de la World Pride qui a eu lieu en 2019, où plus de 5 millions de personnes ont convergé à New York à cette occasion. La prochaine fierté mondiale, World Pride, aura lieu au Danemark en août prochain, en août 2021, dans les villes de Copenhague et Malmö. Donc, Interpride et ses membres organisent ateliers de formation, présentations et fournissent autres ressources nécessaires et utiles à l'exercice à l'organisation de la fierté, que ce soit au niveau de la logistique, au niveau de la technique, de la programmation, de l'inclusion, de la diversité, des bonnes pratiques, etc.
Alors, pourquoi c'est toujours encore nécessaire de souligner, célébrer, de manifester les fiertés dans notre monde en 2020, bientôt 2021?
Écoutez, la fierté est une performance de visibilité. Elle concentre l'attention sur les dossiers de la diversité sexuelle et de genre. La fierté, par définition, invite tous les secteurs à se mobiliser pour l'organiser. Les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, nos amis, nos familles, le milieu associatif, le secteur public, ses institutions publiques, le secteur privé, le milieu du développement, la presse, etc. Donc, on est au niveau d'un engagement multisectoriel qui ramène une panoplie de thématiques qui interagissent avec et qui sont à l'intersection de la diversité sexuelle et de genre. Donc, la fierté à la fois toujours militante et célébratoire, elle est forcément plus festive dans les endroits où les droits des populations de la diversité sexuelle et de genre ont progressé. Donc, c'est une célébration qui rend hommage aux combats qui ont été menés et aux combats qui sont toujours menés pour se féliciter du travail qui continue pour limiter les discriminations qui émanent aussi bien des individus que des institutions. Donc, la fierté est particulièrement spécifique à l'environnement dans lequel elle existe. La fierté de Beirut, Beirut Pride, existe dans un espace qui interprète sa législation pour criminaliser l'homosexualité et les transgenres. La fierté de Tbilissi, en Géorgie, a toujours lieu sous de violentes menaces et des agressions de rue. La tension est très élevée dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et on ne parle pas vraiment de festival.
Écoute, ça m'amène à parler de nos défis, les défis auxquels font face les différentes fiertés, le mouvement international vis-à-vis tout ce qui se passe. On est en 2020. C'est quoi les défis qui nous attendent maintenant?
Le mouvement des Prides, le mouvement des fiertés n'est pas indépendant du mouvement LGBT, LGBTQ+, que ce soit au niveau du volet national ou bien du volet mondial. L'année 2020, jusqu'à maintenant, a amené un lot de difficultés assez particulières. Déjà, vous avez la COVID qui a placé des restrictions sur les événements en personne. Les marchés ont été affectés, ce qui a eu des retombées négatives sur le financement des fiertés. Les fiertés ont besoin de financement non seulement pour qu'elles soient organisées, qu'elles s'organisent, mais également elles ont besoin d'argent pour qu'elles puissent assurer des aides et des supports aux autres, aux individus, aux institutions, aux groupes qui en ont besoin. En plus, à cause de la COVID, les institutions publiques, le secteur public a été forcément mobilisé pour la COVID, ce qui a ralenti l'action publique relative à la diversité sexuelle et de genre. Les organisations de la fierté se sont également retrouvées à assurer un travail supplémentaire, celui de venir en assistance aux personnes et aux groupes qui sont dans le besoin. Donc, rien que le volet de la COVID a été mobilisé, les groupes de la fierté, d'une façon différente. Et quand on regarde, quand on se penche sur ce dossier, on réalise que l'actualité de COVID et ses projections nous invitent à nous préparer au format des fiertés en 2021 et même en 2022. Autre point, et un autre défi très important, c'est la polarisation aiguë du discours politique et la déshumanisation qui s'opère de la part de tous les côtés dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux. C'est une cacophonie qui a une seule victime, qui sont les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et pour vous dire que ma réflexion personnelle et l'étude des cas d'histoire invitent à proposer aux fiertés de se concentrer sur des objectifs particuliers afin de les réaliser, plutôt que d'aller dans plusieurs sens. Il est important que nous ayons un esprit ouvert, vraiment un esprit ouvert, un esprit qui peut écouter des opinions divergentes des nôtres, des opinions différentes des nôtres, sans agresser l'autre, que ce soit dans la parole ou dans l'acte. Et on ne peut plus continuer comme ça à déshumaniser chaque personne ou chaque point de vue avec lequel on n'est pas d'accord. On parle tellement de diversité, on parle tellement d'inclusion qu'on oublie parfois, ou même souvent, d'honorer ces deux termes.
Tout ce qui se passe au niveau politique mondial, le populisme de droite ou d'extrême droite, parlons peut-être comme exemple des États-Unis, du Brésil, de la Russie, de certains pays de l'ancienne Union soviétique, où on a un discours très, très dur vis-à-vis la diversité sexuelle, l'identité de genre. En quoi ça représente un défi important pour vous et comment êtes-vous capable de combattre ça? Comment on fait ça si c'est possible de le faire?
Tout au long du spectre politique, il y a toujours eu des opinions très divergentes. Et on a inventé des systèmes de gouvernance pour qu'on puisse faire la synthèse de ces opinions et d'exister dans un environnement de cohésion sociale durable. Et c'est ce qui est aujourd'hui relativement mis au défi. Je retiens particulièrement qu'il existe une certaine mode, une mode qui est celle de ne vouloir travailler qu'avec des politiciennes et des politiciens qu'on considère friendly ou alliés. Et je trouve ça sidérant personnellement. Parce que depuis quand le rapport à la politique, aux membres du Parlement, qui sont des fonctionnaires que nous payons en tant que citoyennes et citoyens, et avec lesquels nous travaillons afin d'améliorer notre vécu, comment pouvons-nous limiter, réduire notre rapport à ces fonctionnaires et à ces élus et à ces nommés, réduire à la relation qu'on pourrait avoir à une rockstar ou bien à une autre célébrité. Au Liban, par exemple, la quasi-totalité des politiciens n'est pas du tout friendly. Et celles et ceux qui le sont essentiellement dans leur sphère privée et peut-être par moments sur les réseaux sociaux ou par des déclarations. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre une nouvelle cuvée de politiciennes et de politiciens en espérant qu'elle et qu'il serait meilleur. Parce qu'entre-temps, existent des individus dont les réalités sont très violentes, sont très aiguës, et que nous avons la responsabilité, puisqu'on le clame et on le dit, de leur améliorer. Nous parlons toujours d'un objectif qui est celui d'améliorer la réalité des gens, surtout les plus vulnérables. Faisons ça, faisons ce qu'il faut, parce que la vie humaine, parce que la dignité humaine sont beaucoup plus importantes qu'une certaine idéologie ou qu'une certaine théorie politique.
Denis Martin ?
Oui.
J'ai bien aimé ce que je viens d'entendre là à la fin, en parlant des hommes politiques, hommes et femmes politiques.
Ah oui, parce que les défis sont immenses.
Oui.
T'imagines, je peux en nommer quelques-uns. De tous ces politiciens, en fait, Poutine, de tous les politiciens de certaines anciennes républiques de l'URSS, la Tchétchénie, où on tue des personnes parce qu'elles sont gays.
Oui.
On parle en Italie, où ça va pas bien, en Pologne, le Brésil, les États-Unis, évidemment, ça, beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de travail à faire. Et je trouve intéressant cette main tendue qu'a dit croit qu'il faut trouver une façon de travailler avec ces gens-là et de les convaincre. C'est pas évident, hein?
Mais je trouve ça bien, parce que plutôt que de chercher les personnes qui sont ouvertes à entendre ce genre de choses, essayer de trouver le lien qui peut se créer entre ceux qui sont déjà là. Voilà. Mm-hmm. Et c'est bien. J'ai vu qu'il y avait aussi des... on va parler des brutalités policières, des choses qui se font, des humiliations qui se font, des abus, puis des lois, parce qu'il y a des articles de loi qui sont aussi à changer. Je voyais sur le code libanais aussi, il y a une annulation, ils avaient exigé l'annulation d'un article qui stipulait que les relations sexuelles avec la nature sont punies d'une peine maximale d'un an de prison.
Il y a beaucoup de pays dans le monde, je me rappelle plus combien, je crois qu'il y a au moins une poignée de pays encore où on impose jusqu'à la peine de mort. Puis je pense que c'est une centaine de pays où l'homosexualité, on parle d'homosexualité, on n'est pas encore rendu dans les autres questions qui sont connexes et dont on ne parle pas autant, mais qui sont aussi importantes, les questions d'identité de genre.
De genre, oui.
Ah oui, c'est vraiment pas facile. Et je me dis, il ne faut pas aller très loin. Ce n'est pas, le Canada n'est pas parfait. On est quand même...
Non, on ne dit pas ça non plus.
On n'est pas parfait.
Oui.
Vous savez qu'une personne séropositive au Canada qui a une relation sexuelle, même si elle est indétectable et qu'il n'y a aucun risque et qu'il n'y a pas de transmission, si elle ne divulgue pas son statut, elle est quand même passible d'une agression sexuelle et se retrouve comme délinquant sexuel pour le restant de ses jours.
D'accord.
On a encore beaucoup de choses à changer.
Oui, beaucoup de choses à apprendre et ça va pas se passer en quelques mois, malheureusement. Fulgence, c'est une question pour toi.
Oui, non, pas une question, mais c'est quelque chose que je voulais, sur lequel je voulais mettre le doigt aussi. En France, je me rappelle bien de cette loi Taubira qui a mis des milliers de Français dans les rues.
Oui.
C'est pas loin de chez nous, ça. C'est pas la France, c'est un pays démocratique, c'est un pays du respect du droit, tout ça. Mais j'étais tellement étonné de voir des milliers de Français dans les rues qui étaient contre cette loi, qui ne voulaient pas entendre parler de mariage pour tous, hein.
Oui. Ce n'est pas terminé. Il y a tous ces mouvements politiques qui, ne serait-ce qu'au Canada, beaucoup de députés conservateurs, en fait, quelques députés conservateurs ont refusé de voter pour l'abolition des pratiques de conversion. Là, hein,
des thérapies.
Des thérapies de conversion. Oui. C'est une horreur, c'est de la torture, et on fait encore ça en 2020. Alors, et ces gens-là reprennent le pouvoir et ils vont remettre ça à l'agenda, ils vont abolir la loi. Il y a encore du travail à faire auprès de ces gens pour leur faire comprendre que ce n'est plus acceptable de travailler comme ça. Et on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que parfois, je trouvais intéressant quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on a encore besoin de célébrer la fierté? Ben, peut-être justement pour rappeler que tout n'est pas terminé. Et encore là, je reviens toujours sur le fait que nous habitons Montréal. Je ne veux pas encenser ma ville. D'abord, je suis pas natif de Montréal, alors c'est pas un problème pour moi. Mais lorsqu'on sort de certains quartiers de Montréal, je parlais de certains quartiers de Montréal, quand on va dans d'autres quartiers ou lorsqu'on va à l'extérieur, dans le Québec un peu plus profond, les questions de respect des droits et de droits d'orientation sexuelle et d'identité de genre, oh là là, qu'on a du chemin à faire. Ce n'est pas du tout réglé.
Non, Montréal fait une exception, quoi.
Il y a certains quartiers à Montréal, oui, je me dis quand on est au centre-ville, puis encore, je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, quelques années, où un soir tard, sur l'avenue la rue Sainte-Catherine-Est, dans plein village, quelqu'un passe en auto, et puis, non, c'était pas en auto, il était à pied, et en fait, en vélo, et puis m'envoie des insultes parce que je suis gay. Mais voyons, on est encore
ça,
là.
Ça me rappelle un livre que tu as écrit, il y a déjà quelques temps, et qui racontait toutes ces histoires-là, d'ailleurs, de façon très intéressante. Enfin, très intéressante à connaître, à comprendre ce qui s'était passé. Malheureusement, c'est pas que le Canada et tout. Il y a encore plein d'autres choses. Est-ce que tu as l'impression que l'après-Covid va changer des choses? Est-ce que, à cause de tout ce qui s'est passé, il y a comme une meilleure écoute, une oreille un petit peu plus ouverte en ce moment?
Oh.
Non, pas vraiment.
Je me sens pas très habilité à répondre à ça. J'ai une opinion, mais je ne sais pas quelle est la valeur de cette opinion-là. Moi, je vais l'émettre. Je crois que cette crise de la COVID a plus, je dirais, plus empiré les choses que d'avoir aidé. Il y a une telle intolérance, une telle colère, une telle rage dans les gens. Ça se lit sur les réseaux sociaux. Alors, vivement qu'on sorte de cette pandémie, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui va exploser si ça continue comme ça. Non, je crois que cette pandémie, j'aurais espéré qu'elle nous aurait fait faire un pas en avant. Je crois pas. Je crois qu'on risque de faire du surplace et peut-être même de reculer un peu.
Alors, repartons sur la fierté 2021.
Oui.
Quels en sont les défis?
Le défi maintenant, ce sera de savoir s'il y aura effectivement possibilité pour beaucoup de fiertés, en fait, dans le monde, d'organiser des événements publics, parce qu'elles ont tous annulé leurs événements et c'est devenu un événement virtuel. C'est quand même génial, ça a été vraiment plaisant. Est-ce qu'on pourra, en 2021, à l'été 2021, espérer faire des événements publics en présentiel? On voit un peu, au niveau de la COVID, on voit que les choses avancent. On a quand même quelques vaccins qui pourraient être approuvés et les gens pourraient s'en prévaloir. Et ça réglerait peut-être une partie du problème. Mais il faut dire aussi que financièrement, ça a été très difficile. Il y a des fiertés dans le monde qui ont perdu tout leur financement et qui doivent recommencer à zéro. Ça va être difficile.
On en revient à une question d'argent.
Oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Oui.
Alors, dans un pays comme le Canada, où on finance quand même assez bien nos fiertés, je crois que dans l'année qui vient, l'année d'après, peut-être plus en 2022, on retournera à des événements publics, grand public, à grand déploiement. Mais il y aura une certaine transition en 2021, tout dépendra des revenus. Est-ce que les gens seront au rendez-vous?
C'est la question qui se pose. Moi, j'ai comme l'impression, tu n'es pas le premier à le poser pour d'autres raisons aussi, j'ai comme l'impression que, au contraire, dès qu'on va pouvoir reprendre l'air, si on peut dire, ça va être la première chose à faire, c'est d'aller assister à des spectacles, d'aller voir tous ces gens qui ont été privés de leur art. Et nous, on a été aussi privés de leur art. Alors, tu penses bien que... Oui, je pense que oui, on va s'y précipiter. Ça me paraît comme une évidence.
Bon, écoute, le jury va délibérer pour les prochains mois, parce que je regarde un peu ce qui se passe au niveau du centre-ville de Montréal, du village à Montréal, où les commerçants ferment leurs portes définitivement parce qu'ils n'y croient plus. Les prochaines années vont être difficiles pour se relever. Mais chose certaine, Arlette, la promesse que je te fais, lorsque nous pourrons le faire, je serai en studio avec toi et avec Fulgence.
Ah ben, très bien, ça c'est parfait.
Oui, quand ce sera,
ça
oui,
serait une bonne nouvelle quand on pourra recevoir du monde aussi en studio plutôt que de les avoir au téléphone. C'est sûr que ça change la donne, mais c'est déjà bien aussi. Prenons déjà ce qu'on nous donne, c'est pas
tout à fait
un enfermement total, donc il y a aussi cette solution là. Bon, on va voir. Moi, je suis une éternelle optimiste, donc je me dis que on va comprendre encore plus de choses, des choses vont pouvoir changer, donc je sais pas, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite fortement.
Je nous souhaite ça aussi. Je nous souhaite du bonheur et puis de la bienveillance.
Surtout. Voilà, ça, c'est le mot juste. Vraiment, oui. On en a vraiment beaucoup besoin. Mais écoute, on arrive à la fin de cette entrevue. Merci beaucoup, Denis Martin.
Quel plaisir d'être avec vous deux.
En tout cas,
merci Denis Martin.
Ben nous, ça nous a fait plaisir de t'entendre. Et puis, c'était une belle entrevue. Donc, tu nous as permis de rencontrer, du moins d'entendre des paroles qui faisaient du bien, je trouvais, qui étaient fortes et intelligentes. Donc, voilà. Bonne
nuit. Oui, c'est un personnage très charmant que j'ai déjà rencontré lorsque j'étais à Athènes l'an dernier, dans une conférence, justement. Et puis, très intéressant à entendre, tout un homme très intéressant. Alors, j'étais content de l'avoir pour vous aujourd'hui.
Mais je sais bien que à l'époque, vous avez voyagé, M. Chabot, mais maintenant...
maintenant, on est sage.
Merci beaucoup, Denis Martin, et puis à très bientôt.
À très bientôt.
On va se quitter avec la chanson de Chloé Brault qui nous chante « Petits problèmes ». Et j'espère qu'ils deviendront petits. Voilà, d'accord. C'est mon souhait d'aujourd'hui.
Et le mien.
Merci Denis Martin, à bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir. On arrive au bout de cette émission.
Ça va tellement vite.
C'est déjà l'heure.
C'est fini. Ouais, c'est fini. On dit merci rapidement à Éric Lefebvre, directeur général du partenariat du quartier des spectacles.
Bien sûr. Puis à Denis Martin Chabot, qu'on vient d'avoir.
Denis Martin, qu'on vient d'avoir.
Et puis, merci Maurice Bolduc.
Merci à notre complice, à la console. Je ne me trompe plus, je ne dis plus devant ou derrière la console, je dis non. À la console.
Bravo, voilà. Merci à toi aussi.
Merci à toi.
Et puis, comme d'habitude, on va se retrouver demain pour de nouvelles... J'avais envie de dire, pour de nouvelles aventures.
On se voit demain.
Allez, se voit demain. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et à demain.
Prenez soin de vous surtout.
Voilà. Entre 5 et 6.
Voilà.
Allez, à demain, au revoir.
Ciao.